Bonjour à toutes et à tous. Pardon. Il n'y avait pas une zapette avant? Je te disais donc, bonjour. La gorge qui se noue, les jambes qui peine à porter, la boule au ventre, les mains moites. Ces moments-là où le corps dit l'indicible, où le courage nous paraît être un mot bien trop théorique. Oui, avouons-le, nous avons peur. Si vous pensez que la peur est indigne d'un chrétien, eh bien vous avez bien fait de venir. L'apôtre Pierre et même Jésus ont eu peur. Notre défi n'est donc pas tant de ne plus avoir peur, mais d'apprendre à la dépasser et à la vaincre. Ce matin, je vous propose d'étudier ensemble un texte qui ne fait pas peur, mais qui en parle, sans la nommer. Nous retrouverons Jésus et les disciples quelques heures avant la mort de Jésus, et ça dans Luc 22. On regardera les versets 31 à 46, même si dans le discours, vous verrez, j'irai un peu plus loin. Je vais faire la lecture. Donc Luc 22, 31. C'est Jésus qui parle. « Simon, Simon, fais attention, Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Seigneur, lui dit Simon, je suis prêt, s'il le faut, à aller en prison avec toi, ou même à mourir. Pierre, reprit Jésus, je te l'assure. Aujourd'hui même, avant que le coq ne chante, tu auras par trois fois nié de me connaître. » Puis s'adressant à l'ensemble de ses disciples, il continua. « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac de voyage, ni sandales, avez-vous manqué de quoi que ce soit ?»« De rien, » dirent-ils. « Eh bien maintenant, » poursuivit-il, « si vous avez une bourse, prenez-la. De même, si vous avez un sac, prenez-le, et si vous n'avez pas d'épée, vendez votre manteau pour en acheter une. » Car il est écrit, il a été mis au nombre des criminels et cette parole doit s'accomplir pour moi. Car tout ce qui a été écrit de moi va s'accomplir. Seigneur, lui dirent-ils, voilà justement deux épées. Cela suffit, leur répondit-il. Alors il sortit et se dirigea comme d'habitude vers le mont des Oliviers. Ses disciples s'y rendirent aussi avec lui. Quand il fut arrivé, il leur dit « Priez pour ne pas céder à la tentation. » Puis il se retira à la distance d'un jet de pierre, se mit à genoux et pria ainsi « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. L'angoisse le saisit, sa prière se fit de plus en plus pressante, sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombèrent à terre. Après avoir ainsi prié, il se releva et s'approcha de ses disciples. Il les trouva endormis, tant ils étaient accablés de tristesse. « Pourquoi dormez-vous ? » leur dit-il. « Debout et priez pour ne pas céder à la tentation. » Jusqu'ici la parole de Dieu. Prions. Seigneur, tu as enseigné tes disciples et nous n'étions pas là. Mais parce que quelques-uns ont eu le vif désir d'écrire ce qui s'était passé, par ricochet, tu nous enseignes. Et cette parole, nous voulons qu'elle nous parle. Nous voulons qu'elle nous touche comme elle a touché tes disciples quand tu leur as parlé en face à face. Amen. Prier, c'est parler à Dieu. La peur, c'est une émotion humaine. Donc la prière ne peut rien contre la peur. Qu'en pensez-vous ? Personne ne se lève pour dire « Mais c'est faux !» Vous devriez pourtant. Derrière ce sophisme se cache en réalité un raccourci que le tentateur Satan aurait plaisir à nous faire croire. Qu'est-ce que c'est qu'un sophisme ? C'est un procédé rhétorique, bien connu des politiques d'ailleurs. C'est un argumentaire qui est intentionnel. L'auteur lui-même, il sait que c'est faux. C'est quelque chose qui est non valide au sens même de la logique. Ici, Jésus, lui, au contraire, finalement, il enseigne qu'il faut prier pour résister à la tentation. Et ça, dans notre texte, on l'a par quatre fois, verset 32, verset 40, verset 42, verset 46. Et celui qui me touche plus particulièrement, c'est celui du verset 40. Je vais juste le relire. C'est quand il fut arrivé à Gethsemane, au mont des Oliviers, pardon, il leur dit « Priez pour ne pas céder à la tentation ». Ici, la tentation, c'est succomber à la peur. Je le comprends comme ça, à la lecture et à la méditation de ce texte, et vous allez voir de ce qui se passe après aussi. Parce qu'en fait, c'est un grand passage, tout cela. Je n'ai lu que les versets 31 à 46, mais en fait, pour être complet, il faudrait pousser jusqu'au verset 62. Je n'en ai pas fait la lecture, je vous en raconterai deux, trois trucs. Le passage d'enseignement, à proprement parler, celui que Jésus donne à ses disciples, il est entre le verset 35 et 40. Juste avant ça, on a quoi ? On a le verset 31 à 34 où Jésus, lui, il prie pour la tentation de Pierre. Il applique pour Pierre directement ce qu'il est en train de dire à ses disciples, enfin ce qu'il va dire à ses disciples juste après. Donc, premier exemple. Après l'enseignement, voici le vrai exemple, versets 41 à 42. Jésus prie lui-même pour sa propre tentation et il encourage les disciples à faire de même. Et finalement, versets 43 à 46, on a le contre-exemple. Les disciples, eux, ne veillent pas pour prier. Ils n'appliquent pas, à ce moment-là, l'enseignement que Jésus leur a donné. Ça, c'est le petit... C'est sur ce qu'on a lu. Et en fait, on peut avoir aussi, du verset 47 à 53, on a l'arrestation de Jésus. Jésus, quand on lit cette arrestation-là, et on ne l'a pas fait ce matin, on sent qu'il était prêt pour cette épreuve, pour l'arrestation elle-même. La prière qu'il a faite, je le crois, a produit le résultat annoncé, prévu. Il était prêt. Et du verset 54 à 62, on a le fameux, pour ceux qui connaissent ce passage, triple reniement de Pierre. Pierre n'a pas tenu bon face à l'épreuve. Il a renié Jésus. L'absence de prière n'a pas permis qu'il tienne bon. Voilà pour ce grand passage, ce grand enseignement, et ce qui me permet de vous dire aujourd'hui que dans ce passage-là, la tentation dont parle Jésus, elle est en lien assez fort avec la notion de peur. Je l'ai dit, Jésus, il a une attitude qui est calme au Mont des Oliviers, lors de son arrestation. Et ça, on peut le mettre en parallèle avec la préparation qu'il a eue dans la prière. Ce que ça nous montre, ça contraste aussi dans cette arrestation entre, on a un Jésus qui répond de manière assez, pas forcément amicale, mais paisible, sereine face à cette troupe de soldats qui arrive vers lui, et à côté de lui, il y a des soldats qui prennent l'épée et qui découpent une oreille. On n'a pas le même type de réaction, clairement. Ce qu'on voit, c'est que c'est le Seigneur qui donne les forces nécessaires pour tenir bon dans l'épreuve. Et moi, quand je repense à toutes les petites ou les grandes épreuves que je peux vivre, mon manque de préparation dans la prière me pète un peu à la figure. Dans notre texte, l'épreuve de Jésus, c'était celle de sa réaction. Et on voit les disciples qui ont réagi par la violence. Jésus, lui, à l'inverse, il a accepté cette mission, que la volonté du Seigneur soit faite, dans un calme et qui, je crois, n'était pas juste un calme d'apparence. La suite des textes de la Passion montre qu'il est complètement serein. L'épreuve de Pierre, elle, c'était d'assumer, le courage d'assumer sa foi par rapport à la peur d'être lui aussi arrêté. Ce n'était pas lui simplement montrer du doigt à l'endroit où il était, où ça s'est passé. C'était, il y avait des soldats, il y avait du monde. Jésus était rentré en train de, dans le tribunal en train d'être accusé par le Grand Conseil. Il y avait de la tension. Pierre n'a pas été jusqu'au bout de sa promesse de tenir bon jusqu'à en mourir. Pas à ce moment-là. Dans les deux cas, celui de Jésus et celui de Pierre, c'est la peur qui était en jeu. La peur structure nos réactions, nos forces, nos faiblesses, ainsi que sûrement aussi nos relations avec les autres. La peur d'échouer, la peur d'être jugé, la peur de perdre ce qui a été acquis, la peur de perdre le contrôle, la peur de l'inconnu du lendemain, la peur de manquer du nécessaire, la peur de manquer une opportunité aussi, la peur de s'engager. La peur fait partie de notre humanité et le tentateur sait jouer sur cette corde pour nous empêcher d'avancer. Ce sont les forces que Dieu donne qui nous permettent de dépasser, de vaincre notre propre peur. Ce combat contre la peur est nommé tentation, car Jésus nous met en garde contre le fait que c'est Satan lui-même qui l'utilise contre nous. Alors, comme les disciples, et peut-être vous aussi, j'ai été surpris que Jésus appelle aux armes, à avoir une épée. Et c'est un peu pour ça que j'ai choisi ce texte-là, je me disais, mais c'est pas le Jésus que je connais. Cette phrase m'a interpellé, m'a fait me poser la question, mais pourquoi à ce moment-là une métaphore guerrière? Contre quel si grand péril est-ce que Jésus essaye de nous mettre en garde? Comprenez ici qu'on a dépassé, je crois, la simple émotion humaine. Le feeling du « je le sens pas ». Celui qui nous encourage un peu à l'inaction. C'est d'une puissance céleste, celle de Satan, que Jésus nous met en garde. Si Jésus nous encourage à la prière, c'est parce que nous avons besoin d'une puissance céleste dans ce combat contre le tentateur. Pierre a essayé par ses propres forces et il n'a pas réussi. Et si Jésus utilise l'image de l'épée, c'est parce que ça correspond à ce que les disciples vivaient à leur époque. Le livre des Actes le dit, c'est par l'opposition qu'ils vont recevoir de la part du peuple, de leur propre peuple, qu'ils vont être mis à l'épreuve. L'épée marque cette division, ça leur parle particulièrement à eux. Parce que est-ce que nous le sommes encore Est-ce que cette histoire d'épée et de division nous parle encore aujourd'hui, de cette manière-là, à nous? Je crois que Satan ne sortira pas son épée pour croiser le fer en duel réglementé avec nous. Je crois même que notre société est particulièrement tolérante avec le message que nous portons. Bien sûr, des fois, ça accroche un peu, mais par rapport à ce qui se passe dans le livre des Actes, pardon, mais ça va. Le message de ce chapitre serait limité pour nous si je me contentais donc d'un enseignement « N'ayez pas peur d'annoncer l'Évangile ». Oui, je vous le dis, n'ayez pas peur d'annoncer l'Évangile. Mais allons plus loin. Même si c'est encore aujourd'hui un défi que d'annoncer être croyant, il y a un enseignement plus large à tirer de ce texte. Jésus nous montre tout l'enjeu qu'il y a à vaincre la peur. Et sa prière au verset 42, moi je la trouve magnifique. C'est une prière surtout de la part de Jésus qui dit « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. » Ça me touche parce que Jésus, il vient prier avec une justesse parfaite que la volonté du Père soit faite tout en lui avouant de l'autre côté, par son côté humain, que l'épreuve est particulièrement difficile. Dans son cas, l'épreuve est celle de la peur, je crois, de la souffrance à venir, de cette coupe qu'il va devoir boire dont il parle. Le fait de voir Jésus dans toute son humanité souffrir par avance en son être de l'épreuve de la croix à venir nous parle. Qui n'a pas souvenir d'un moment où nous avions peur, où nous stressions un peu par avance d'une épreuve, d'une incertitude pas agréable, ou encore de ne pas savoir si un proche, un ami n'avait pas mal pris ce que nous avions dit ou fait, je ne sais pas, je stresse, je ne sais plus où j'en suis. Notre défi n'est pas tant de ne plus avoir peur, ça fait partie de notre humanité, de ce que nous sommes et de ce que Dieu nous a créé comme ça, mais d'apprendre à la dépasser, d'apprendre à la vaincre. Chez les enfants, n'avez-vous jamais remarqué qu'il y a une constante entre les débuts à la piscine, les débuts à la patinoire et ceux d'une nouvelle école ? Alors, si vous n'avez pas d'enfant ou ça fait très longtemps, peut-être que... Le premier réflexe, c'est de s'accrocher et de rester accroché au solide, au bord de la piscine, à la rambarde de la patinoire ou au mur de l'école. Ce qui est solide, c'est rassurant. Ça ne bouge pas. À l'inverse, le milieu de la piscine, le milieu de la patinoire ou la cour d'école, ça bouge, ça glisse, c'est mouvant et on se sent vulnérable. Quel parent, quel enseignant ou moniteur aurait l'idée de dire à un tel enfant pris en flagrant délit de peur « Tu es peureux, tu as échoué, tu n'y arriveras jamais !» De telles personnes savent très bien que l'enfant a parfois besoin de temps, d'épreuves pour prendre confiance, trouver le courage et aller dans le grand bain au milieu de la piste ou encore parmi les autres dans la cour d'école. Il en est de même dans la parole que Jésus donne à Pierre quand il lui dit « Quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Le triple échec de Pierre de courage face à l'accusation ne sont que des épreuves pour lui dans son chemin de foi. Et Dieu fait grâce en voyant loin. En effet, Pierre était celui qui devait bâtir l'Église de Jésus-Christ. Quelle mission ! Au regard de son évolution dans le livre des Actes, je crois qu'il avait besoin d'en passer par là pour affermir profondément sa foi. De même pour nous, je le crois, ne voyons pas les épreuves de notre foi, de notre courage spirituel comme une succession d'échecs qui finissent par bâtir des limites définitives à ce dont nous sommes capables. Le Seigneur, lui, au contraire, nous promet les forces nécessaires pour aller au-delà de ce qui nous fait peur, et c'est par la prière que nous l'obtenons, et c'est par la prière que nous réussissons ces épreuves. Apprenons à les vaincre et grandissons. Si certains ont revendiqué haut et fort « Je suis Charlie », avons-nous envie de dire « Je suis Pierre » ? Nous sommes ce disciple qui a cru dans ses propres forces. Nous sommes ce croyant zélé et plein de courage. Nous sommes aussi de ceux qui échouent dans leur combat contre la peur. Et nous sommes surtout de ceux qui croient que le Seigneur Jésus nous aime tellement qu'il nous relève et nous remet en marche, en mission, même après l'échec. La grâce de Dieu est visible dans le fait qu'il donne à Pierre une mission quand il sera prêt, quand il sera revenu. Ainsi, nous sommes, nous, encouragés à tenter, échouer, recommencer. Ce combat spirituel n'étant pas dépendant de nos forces, mais de notre maturité spirituelle, nous n'avons pas d'obligation à réussir. Alors voilà, si je peux nous lancer un défi, c'est un défi de prière. La prière, elle, est la seule arme qui fonctionne dans un combat spirituel. La seule. Donc la toute prochaine fois que nous aurons identifié dans notre quotidien que à ce moment-là, nous commençons à réagir par peur, prions. Prions que le Seigneur nous donne ses forces pour vaincre la tentation de donner raison à cette peur. Notre communauté n'a pas attendu cette prédication pour se lancer un défi de prière. On est fermé et c'est peut-être un bon temps aussi pour faire ce bilan de ce qu'on a vécu dans ce défi de prière. Et ce que je vous propose, c'est que ça ne va pas être moi qui vais faire le bilan. C'est vous. J'ai listé tous les sujets qu'on a pu mettre sur la table, prier ensemble, mois après mois. Ce que je vous propose, c'est qu'après, une fois que cette liste sera faite, chacun ici se sente libre de prendre la parole à haute voix pour dire en quoi il a vu l'action de Dieu et pourquoi il veut remercier le Seigneur. Que vous tourniez ça comme une prière, comme... On peut aussi remercier le Seigneur en se tournant vers la communauté. Le Seigneur entend aussi. Donc partageons, partageons la manière dont vous avez vu que le Seigneur a répondu à nos prières. Et donc, en novembre dernier, puisqu'on a commencé en novembre, on a crié à Dieu en nous mettant dans une situation d'humilité devant le Seigneur. Nous voulions confesser notre faiblesse, notre besoin ardent de son action au sein de la communauté dans notre vie. En décembre, nous avons prié pour le rétablissement et l'acceptation de l'épreuve, de l'incertitude que nous vivions après la division de notre communauté et par cette absence de pasteur. En janvier, nous faisions le constat devant Dieu que nos forces étaient faibles pour vivre l'Église. Nous avons prié pour que le Seigneur nous montre comment il avait prévu, lui, de pourvoir aux besoins humains de cette Église. Et en miroir, en février, nous avons prié que le Seigneur ôte nos craintes quant aux finances de l'Église. En mars, nous recherchions un nouveau souffle et en continuité à la prière de janvier, nous sentions le besoin de rentrer dans un temps de formation. Nos craintes de revivre une année 2025 difficile et dense comme l'avait été 2024 se dissipaient. Nous faisions le constat que l'Église avait changé de visage et que la confiance régnait globalement entre nous. En avril, nous nous tournions vers Dieu avec ce désir d'être une lumière dans la ville. Nous prions pour nos divers engagements en dehors de nos murs et dans les contacts avec les autres églises. Nous étions à la recherche de la volonté de Dieu pour savoir dans quels engagements il nous attendait, quels étaient les terrains qu'il avait déjà préparés. Et finalement, en mai, et on l'a prié tout à l'heure, une étape avait été franchie avec l'accueil d'une autre communauté dans nos locaux et peut-être prochainement une deuxième. Alors là, nous demandions à Dieu, non pas une prière pour nous, mais pour eux, de les bénir. Je vous laisse le micro, enfin virtuellement, mais sentez-vous libre de réagir. Pour faire le lien avec la, la prédication, quand je me souviens en novembre, en décembre, nous étions dans l'épreuve. L'épreuve, notamment celle des relations cassées, perdues, altérées, de toutes ces personnes à qui nous avions fait l'église et qui n'étaient plus là depuis maintenant quelques mois. Et à ce moment-là, nous avons prié, sûrement de manière complètement imparfaite, mais ce Dieu, en lui disant, nous avons peur finalement de ce qui est devant nous, nous ne reconnaissons plus cette même église, apprends-nous, aide-nous, guide-nous, montre-nous là où tu nous attends. Tout le défi de prière était orienté sur cette idée de base de nous ne sommes pas capables par nous-mêmes d'aller au bon endroit, alors montre-nous. Et je veux nous encourager tous en assemblée à rester pour les mois, les années, les décennies, les siècles à venir dans cette idée que nous ne serons jamais compétents pour emmener l'Église là où elle doit aller. Sans l'aide de Dieu, nous ne serons jamais compétents pour le faire. Avec son inspiration, avec l'inspiration communautaire de l'Esprit, en tout cas, je veux croire que oui, là, nous irons au bon endroit. Et c'est par cette affiliation, cette dépendance au Seigneur que nous devons avancer. En parole d'envoi pour aujourd'hui, je vous laisse ce verset 46 de notre passage, cette parole de Jésus qui s'adresse à ses disciples et peut-être d'une certaine manière qui s'adresse à nous aussi et qui nous dit « Pourquoi dormez-vous ? Debout ! Et priez pour ne pas céder à la tentation. » Bon courage, bon dimanche, bonne semaine.